Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent. Mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dans tous nos problèmes et tous les discours finiront par je t'aime. Vienne, vienne alors, vienne là. Nous aurons l'amour dans tous nos problèmes et tous les discours finiront par je t'aime. Vienne, vienne alors.
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'à laisser ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, la voix à tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'à ma ribin, je t'ai blousé, c'est mon voisin. La rage, mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix à vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage de Dents, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau une invitée que nous avions reçue le 11 octobre dernier. Malika, bonjour.
Bonjour.
Malika, présente-toi à nos auditeurs qui n'auraient pas écouté l'excellente émission qu'on avait faite avec toi le 11 octobre.
Alors, Malika Bellarbi, je suis secrétaire de l'Union départementale de la santé et de l'action sociale, CGT, et aussi animatrice d'un collectif EHPAD dans mon département.
Bien.
92.
Voilà. Alors, on t'avait reçu parce que il y avait des problèmes dans les EHPAD, c'est peu de dire. Et nous te recevrons en deuxième partie pour parler d'un EHPAD en particulier, celui de Suresnes, qui a la particularité d'être public. Mais je voudrais qu'on revienne sur le chaos. Allez, on va dire le chaos.
Oui, oui, c'est tout à fait le mot qu'il faut utiliser aujourd'hui sur la situation de l'ensemble des EHPAD sur notre territoire en France. Une situation qui est dramatique, hein, comme vous le savez. On va quand même rappeler aux auditeurs que quand même que les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Le manque d'effectifs et certains cadres de management aussi toxiques met à mal tout ce personnel, hein, dans les EHPAD. Et aussi, derrière, il y a une prise en charge des résidents qui est défaillante. Et vraiment, le monde des EHPAD, aujourd'hui, on peut le considérer qui va très, très mal. Et que le gouvernement, aujourd'hui, ne répond pas du tout à l'enjeu sur le grand âge, qui est aussi une situation qui est quand même assez dramatique.
Alors, quelle est la situation du grand âge, justement, Malika ?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire.
On va aller étape par étape. On D'accord. a le temps.
Bien sûr. La situation aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, en premier lieu, il y a un manque de moyens financiers. C'est-à-dire que l'ensemble des EHPAD, 85% des EHPAD sont en situation déficitaire. C'est-à-dire moins de 300 000 euros en moyenne.
Dans ces 85% d'EHPAD, quelle est la proportion? Est-ce que tu connais la proportion de privé et de public?
Oui, à peu près. Il y a à peu près 50% d'établissements publics, 26% d'établissements privés lucratifs et le reste 24% du non lucratif, si je me trompe pas.
Donc ça veut dire que l'État a un rôle à jouer énorme.
Complètement, oui, il a un grand rôle, effectivement. Il y a le défi du grand âge. Il faut quand même pas oublier que d'ici 2030, nous allons doubler de personnes âgées qui vont être en situation de dépendance, donc perte d'autonomie, et aussi liées à des problèmes de santé. Et qu'aujourd'hui, déjà, la situation, elle est pas du tout favorable pour les personnes âgées. Donc, avec le peu de moyens financiers qu'on octroie pour ces personnes âgées, je suis très inquiète sur cette situation, mais aussi quelque part aussi c'est les conditions de travail des personnels qui est quand même déplorable. C'est qu'on se retrouve dans des situations quand même d'une grande inquiétude, parce que je vais faire le parallèle à un infirmier qui m'a contacté hier, qui était dans une situation quand même désastreuse, parce qu'il a pris la prise en charge de 100 résidents à lui tout seul, et donc qui était en situation de grande difficulté, et qui me demandait quelque part quelle réaction il doit avoir. Donc, effectivement, un dimanche, sans encadrement, avec bien sûr des astreintes, mais à distance, met à mal ce personnel et aussi les résidents derrière. Donc la sécurité, elle n'y est pas du tout. Et puis derrière, il y a les mesures aussi du gouvernement sur une loi qui est bâtir pour bien vieillir, et qui parle par exemple dans leur directive de maltraitance. Je pense que la maltraitance, oui, elle y est, mais elle est institutionnelle. Elle est la responsabilité, c'est les pouvoirs politiques qui mettent un manque de moyens dans ces structures, et qui aujourd'hui amène ces personnels dans des situations difficiles, car ils mènent pas du tout à bien leur mission. Et puis derrière, la prise en charge des résidents, elle est complètement délétère.
Donc ça veut dire que quelque part, dès le départ, le politique a décidé que nos seniors, nos aînés, ils n'en avaient rien à foutre. Donc ils laissent sciemment pourrir économiquement 85% des EHPAD. Certains sont rattachés à des entités, des établissements publics, hospitaliers, d'autres pas. Mais c'est pas son problème. Son problème, c'est de privatiser à tout va. J'ai tout résumé ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est que ces 85% effectivement d'établissements publics déficitaires, au lieu de vraiment de donner des moyens financiers pour équilibrer justement le financement de ces EHPAD, et dans la loi justement ils ont modifié certaines directives. Donc ils ont décidé que certains EHPAD seraient rattachés à des établissements de santé. Moi je prends l'exemple dans mon département 92, il y a un EHPAD public qui a été rattaché à un établissement de santé, mais cet EHPAD est excédentaire. C'est parmi le peu peut-être des 15% où il y a beaucoup d'argent. Donc, il a été rattaché dans un établissement de santé. Après, cet établissement de santé aussi, il est déficitaire de 8 millions d'euros. Donc, on se pose quand même des questions. Par contre, certains établissements où ils sont déficitaires des EHPAD, donc là, ils les mettent sous forme de groupement qu'on appelle groupement territorial médico-social, qui va être diligentée par l'ARS et un peu par le conseil départemental. Mais le problème, c'est que ces établissements, étant donné qu'ils sont déficitaires, eh ben, ils vont faire appel à du privé. Et justement, ce privé qui va venir un peu renforcer ces EHPAD, ça va amener à la disparition du service public. Hein. Moi, c'est ça. Moi, je trouve que cette volonté politique, c'est d'amener les services publics dans la privatisation, parce que voilà, c'est la ligne de conduite du gouvernement.
Alors, l'ARS, c'est...
Alors, l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé.
Voilà.
Donc, c'est eux qui financent la répartition de la dotation soins pour les EHPAD, qui est octroyée par la Sécurité sociale dans le cadre, par exemple, du plan de financement de la Sécurité sociale 2025, qui est d'ailleurs très insuffisant au regard du besoin qu'on a pour soigner nos aînés.
Alors, pourtant, ils ont fait une dotation, le gouvernement Barnier. Ils ont fait une dotation de 640 millions.
Non, 650 millions, effectivement, pour essayer de renforcer les EHPAD déficitaires. Non, si on fait le compte, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et pas, c'est pas ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande, c'est de 15 à 20 milliards pour essayer vraiment de relever le secteur médico-social, surtout particulièrement les EHPAD, comme voilà aussi les structures où il y a aussi des structures d'handicap. C'est aussi un autre volet où il y a un manque de moyens.
Alors, il y a une volonté politique de ne rien faire. Donc, une violence institutionnelle qui se traduit par le fait que les budgets ne suivent pas, que l'ARS ne joue pas son rôle, elle ne dote pas d'argent les EHPAD. À ce moment-là, les familles de résidents et les résidents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pourraient faire?
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils font rien. C'est que quand ils vont dans ces structures, ils payent le tarif d'hébergement, hein, qui est quand même qui relève 44% du financement de l'EHPAD. Donc ces résidents, ils sont soumis surtout à payer le tarif d'hébergement, sans une qualité de soins qui répond pas du tout aux attentes de ces personnes âgées.
Alors, le tarif d'hébergement moyen en région parisienne, parce que nous sommes en région parisienne, c'est...
Alors, sur mon département, dans le 92, je vais bien le préciser, dans les établissements publics, c'est 3000 euros en moyenne. Dans le privé lucratif, c'est 4500 en moyenne. Privé public, c'est 3500. Mais on va quand même rappeler qu'il y a les établissements comme... Corian, qui est maintenant sous l'entité Clariane, ou Orpea, qui a changé son entité juridique. Il y a certains établissements, ils payent entre 12 000 et 15 000 euros par mois de tarif d'hébergement pour...
Une qualité médiocre.
Voilà, tout à fait.
Bon, donc en gros, on demande aux seniors, à nos aînés, de payer, de se taire. On demande au personnel de souffrir en silence. Donc, le personnel, on va voir dans la deuxième partie de l'émission, notamment sur un EHPAD, celui de la Chenet à Suresnes. Ils s'organisent pour faire autre chose. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on pointe très précisément ce qu'il faudrait faire pour relever le secteur et obtenir les 15 à 20 milliards qui nous manquent pour s'occuper correctement de nos aînés.
Là, pour l'instant...
On est en arbitrage gouvernemental.
Voilà, enfin, moi, si c'était moi, c'est qu'on voudrait un petit peu vider les poches des actionnaires, parce que faut bien savoir que dans le privé lucratif, l'argent que payent ces résidents, ça va surtout dans les poches des actionnaires. Mais effectivement, le gouvernement aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est ce qu'ils proposent, c'est une journée de solidarité, hein, pour relever, voilà, les finances pour le grand âge, hein, à tout le monde du travail. Ce que le gouvernement propose aujourd'hui, c'est 3 jours de carence. Surtout, moi, je pense à au personnel des EHPAD où leur état de santé est dégradé, parce qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup fragilisées par leurs conditions de travail et la lourdeur du travail. Donc, elles sont des santé très fragiles, et le gouvernement, ce qu'il a proposé, c'est 3 jours de carence pour encore mieux les faire payer. Parce que bon, voilà, donc c'est pas assez suffisant, leur état de santé, puis 3 jours de salaire, c'est pas grave. Et aussi, ce qui me met en colère, c'est ces personnels qui n'ont pas la possibilité d'évoluer par rapport aux échelons et aux grades, surtout pour les contractuels du droit public, où ils avaient la possibilité. En plus, elles n'ont pas la prime de service, parce qu'il faut être fonctionnaire pour avoir la prime de service. Et ben, ces personnes-là, elles avaient la possibilité d'avoir la JPA. C'est une prime du pouvoir d'achat qui a été supprimée pour l'année 2024. Par le gouvernement, et c'est les solutions que porte le gouvernement qui nous amène quand même, nous, la CGT, à être vraiment dans une posture de contestation et de déplorable et choquée de ce qui se passe. Par contre, moi, ce que je pense, c'est de l'argent, il y en a, et il faut aller le chercher, hein, chez les actionnaires. Et puis, je pense que ces 15 à 20 milliards, on pourrait les mettre facilement pour le grand âge et pouvoir assurer quand même l'accompagnement de qualité de soins pour nos résidents, surtout dans les EHPAD, comme dans l'aide à domicile et dans d'autres secteurs où les personnes sont fragilisées au niveau de la santé.
20 milliards, ça correspond à quoi en termes de budget?
20 milliards, ça correspond aux besoins des moyens qu'il y a sur les secteurs des EHPAD.
Je réfléchis à qui on pourrait supprimer ces 20 milliards.
Mais je vous ai dit, aux actionnaires, au capitalisme. Voilà.
Ah, ça fait du bien à entendre. Voilà. Ça fait du bien. Donc 20 milliards pour... donc ça pourrait être un slogan, 20 milliards pour nos aînés.
Voilà, tout à fait, ce serait pas mal ça. Ouais, c'est une bonne idée. Ce sera dans notre prochain tract. 20 milliards pour nos aînés, je pense que c'est pas mal. C'est vraiment, c'est ce qu'il faut, c'est le mot qu'il faut et c'est le besoin qu'on a. Parce que derrière, on est des humains, hein. Derrière, on a des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie, hein, pour aujourd'hui, voilà, savoir cette société. Et puis, ils ont, voilà, et les personnes aussi, les personnels soignants qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, là, voilà, parce que être soignant, c'est pas juste un travail, c'est donner beaucoup de soi, hein, beaucoup de soins qu'on appelle le cœur. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont pas considérées ni pour les résidents ni pour les personnels, aucune reconnaissance. Et moi, ce qui m'implore, c'est que ce sont la majorité des femmes, parce que dans les EHPAD, 90% ce sont des femmes, et il y a quand même une discrimination à ce niveau-là, parce qu'elles n'ont pas de considération.
Alors, est-ce que ça vient aussi du fait que nous sommes dans une société capitaliste et qu'on considère que les aînés ne rapportent rien en termes de capitalisme? Ce sont plus des actifs, ce sont des retraités. Ils vont coûter, entre guillemets, alors qu'ils ont cotisé toute leur vie et qu'ils ont entretenu la machine capitaliste. Et ils ont fait confiance au système de répartition, à savoir qu'ils travaillaient, ils ont eux-mêmes payé les retraites de la génération précédente et ils comptaient sur notre génération pour payer la leur. Donc,
Je ne peux pas entendre ça, parce que on peut pas dire que nos personnes âgées, voilà, ils sont plus utiles. Non, c'est pas possible.
Mais c'est le système capitaliste qui le dit.
On est d'accord. Oui, je suis d'accord, mais moi, je suis pas du tout d'accord. Et c'est pour ça que je me bats, moi, et puis mes autres aussi camarades de la CGT, et puis les personnels soignants, pour qu'on puisse justement accompagner ces personnes âgées dignement, et aussi on leur doit. On leur doit, parce que justement, ils ont contribué aussi, ils ont travaillé, ils ont payé leurs cotisations, ils ont payé les retraites de ce qui était antérieur.
Ils ont reconstruit le pays.
Aujourd'hui, on leur doit, au contraire, c'est une reconnaissance qu'on leur doit. C'est normalement une priorité pour l'État, le grand âge. Pour moi, c'est une priorité, et ça, j'insiste, et je me battrai pour ça, et je continuerai à me battre, effectivement, pour les personnels, mais aussi pour les les personnes âgées, parce que aussi c'est voilà une volonté aussi de mes luttes qui sont là actuelles et qui continueront tant que on répondra pas à nos revendications.
Alors, est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'ONG disent que du berceau au tombeau, on est environné par un phénomène pernicieux, qui sont les paradis fiscaux. On regarde par exemple Victor Castanet, qui a sorti le livre sur le scandale Orpea. Il a sorti il y a peu un livre sur le scandale des crèches. Donc tous ces établissements ont des actionnaires. Ils ont des maisons-mères installées dans les paradis fiscaux qui réclament de 15 à 20% de rentabilité à l'année. Donc, on affame les enfants, on affame nos aînés, on sacrifie le personnel qui s'en occupe. Tout ça pour des actionnaires qui sont dont les bénéfices sont logés dans les paradis fiscaux et qui ne sont pas redistribués dans l'économie. Donc, est-ce que c'est pas quelque part l'indice ultime qu'il faut abattre le capitalisme si on veut changer, même réclamer de l'État 20 milliards, c'est bien. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer la société ?
Complètement, oui. C'est tout à fait évident. Et justement, c'est nos combats que nous menons à la CGT. Mais le problème, c'est que voilà, c'est une volonté du gouvernement. Vous le voyez bien, le gouvernement ne va pas freiner pour sa volonté, justement, de favoriser voilà, ce capitalisme en défaveur voilà, de l'humain et du service public. Ça, c'est... Alors ça, comment combattre ? Effectivement, moi, j'invite, par exemple, le 5 décembre, nous avons une grande mobilisation justement par rapport aux annonces du ministre de la fonction publique, justement par rapport à toutes les mesures qui sont en contradiction avec les personnels et les fonctionnaires, c'est d'être nombreux dans la rue hein, pour manifester et pour dire stop à ce gouvernement associé au capitalisme.
Et qui veut tout privatiser.
Tout à fait.
De toute façon, quand on sera privé de tout, tout sera privé.
C'est clair, on est bien parti, donc on ne le laissera pas faire.
Voilà. Alors, Malika, on va faire une pause musicale et on va revenir sur l'exemple d'une mobilisation qui va peut-être réussir bientôt.
J'espère.
Je l'espère aussi pour eux. C'est les pas de la Chenée à Suresnes.
Tout à fait.
Let it all hang out, but you always fool.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Malika Belardi. Malika, nous allons revenir sur la mobilisation exemplaire et héroïque des salariés. Non, on dit pas salarié, on dit agent.
Voilà, agent de la fonction publique.
Agent de la fonction publique de l'EHPAD de la Chenet.
À Suresnes.
À Suresnes, qui est rue des Fusillés à Suresnes. Et c'est par un article du 14 novembre dernier de l'Humanité que l'on apprend dans la rubrique sociale et économie un article de Samuel Eyen avec une photo de Sam Manouche, oui, c'est ça. J'arrive pas à me relire. Oui, Samir, pardon. Manouche, avec toi en photo. Très, très active.
Voilà. On lâche rien.
Voilà. On apprend que, depuis le 1er octobre, les agents de cet EHPAD public sont en grève. Et tu vas nous expliquer pourquoi. Notamment, on prend l'exemple d'une secrétaire, Muriel Moinet, qui dit cet article que pour la première fois de sa vie, elle a dû prendre des médicaments pour dormir.
Donc déjà, c'est vrai que l'EHPAD de la Chenet, c'est un établissement public de la fonction hospitalière. Donc c'est des personnels qu'on appelle des agents de la fonction publique. Donc on a des fonctionnaires et on a des agents contractuels du droit public. Donc il y a 2 ans, un changement de direction. Je vais quand même rappeler qu'avant ce changement de direction, c'était un établissement où le management était vraiment magnifique. C'était l'un des établissements
modèle.
Le modèle, malgré les conditions de travail qui étaient difficiles, mais il y avait un management de qualité. Donc ça a équilibré un peu l'ambiance et la volonté à ces soignants de travailler. Donc il y a 2 ans, il y a une directrice qui est arrivée et qui a modifié tout ce bien-vivre dans cet EHPAD. Donc elle a commencé à s'imposer, mais dans le cadre où elle avait un management autoritaire. Très autoritaire.
Ah, ça nous parle.
Voilà, très autoritaire. Et en plus, elle
toxique.
Toxique, oui, c'est vraiment le mot. Et elle a commencé à s'attaquer aux responsables de l'établissement, comme les cadres de santé, les médecins coordinateurs, les chefs de services techniques, qui ont les moyens, ont pu fuir parce qu'ils ont pu retrouver des postes ailleurs, ce qui était beaucoup plus facile pour fuir cette autorité toxique. Donc, à la suite, elle a commencé à s'attaquer au personnel soignant et aux administratifs, dont la personne dont je vous parlerai tout à l'heure, et ainsi aux infirmiers. Donc, pendant 2 ans, on a pu, moi j'ai pu les accompagner, on a eu plusieurs négociations avec la mairie, qui était là aussi au milieu. Donc, on a essayé de trouver une issue, on a essayé d'ouvrir le dialogue social, mais non. Elle a vraiment une attitude vraiment qui m'inquiète, d'ailleurs, en tant que dirigeante, et qui aujourd'hui amène, depuis le 1er octobre, soit aujourd'hui 45 jours de grève des personnels d'un EHPAD public, c'est inédit, parce que c'est rare, qui sont d'ailleurs la majorité assignée, parce que elle a décidé de les empêcher de faire la grève, mais malgré tout, moi, franchement, elles ont un grand courage, elles ont de la persévérance et elles continuent à gréver. Et justement, il y a régulièrement, tous les jours, une mobilisation. Et,
le piquet de grève qui a.
Le piquet de grève depuis 45 jours et qui fait qu'aujourd'hui, on a 14 entretiens disciplinaires durant les 3 jours, parce que elle leur reproche de faire la grève et de pas avoir respecté leur assignation pour des absences de 5 à 10 minutes. Il y en a une, elle a reçu une convocation 2 minutes d'absence pour faire la grève. Donc ça me fait bien rire, je dis c'est vraiment incroyable. Et quelque part, elles ont encore le courage, elles vont continuer parce que la situation situation, elle est tellement dramatique dans cet établissement, des intimidations, de l'harcèlement, des mises en placard, des personnes qui sont en arrêt de travail, comme son responsable financier qui, ça fait 2 mois, est en arrêt de travail pour dépression. Donc, toutes ces situations, pour la majorité de ce personnel, eh ben, il y a quand même un problème. Donc, voilà. Ce n'est pas 2-3 personnes, c'est 90% du personnel qui est en grève et qui est manifestement pas content.
Alors, si on prend le cas de Muriel Moinet, donc, qui a dû prendre des médicaments pour la première fois de sa vie, elle explique qu'à un moment donné, la directrice lui criait dessus sans raison. Qu'à un moment donné, elle a plus accès au logiciel de paye pour faire ses fonctions, pour exercer ses fonctions. Elle n'avait pas le droit de signer son nom quand elle faisait des courriers. Et la mise au placard, c'est-à-dire qu'on l'a obligée à travailler dans le couloir.
Tout à fait. Tout à fait, hein. Oui, moi je l'ai vu. Oui, effectivement, c'est une personne qui était responsable des ressources humaines. Et qui se retrouve aujourd'hui, complètement détaché de son travail parce que je l'ai amené vers moi pour essayer de la sauver parce que je pense que si on avait laissé faire cette directrice, je pense que cette personne aurait mis fin à ses jours. Ah oui, complètement. C'est dramatique parce que elle était responsable des ressources humaines et elle se retrouve au milieu d'un couloir et en lui donnant vraiment d'autres missions de gérer les retraites, mais sans lui donner les moyens pour le faire, ce qui veut dire elle n'avait pas accès au logiciel, elle n'avait pas accès aux dossiers administratifs. Donc, par contre, elle lui envoyait des mails pour la remettre en question sur sa qualité de travail, ce qui voulait dire elle était en train de construire un dossier disciplinaire pour vraiment l'exclure. Donc, quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit, il faut sauver cette personne, parce que c'est une personne qui travaille dans les ressources humaines, mais qui est très humaine. Donc, moi, je me suis dit, je vais la récupérer avec moi sur le département. Et j'en suis très contente, parce que bon, c'est une bonne alliée du travail syndical, parce que voilà, ça, justement, ça, c'est très bien, elle me rend service, parce que ça va nous permettre d'avancer sur les dossiers justement des personnels et d'avoir un renforcement sur notre activité syndicale et d'accompagnement des salariés du privé et des personnels publics.
Alors, à l'EHPAD de la Chenée, 20 personnes ont démissionné, 14 sont convoquées pour des entretiens de disciplinaire.
Des entretiens disciplinaires.
Mais il y a 20 personnes qui ont démissionné.
Ah 20. Oui, complètement. Bah oui, et dans les 20 personnes, il y a des médecins coordinateurs, cadres de santé, comme je vous ai expliqué, responsables techniques, infirmiers, ASH aussi. Il y a tout le monde, il y a tout le.
Voilà, toutes les catégories.
Toutes les catégories. Et sur les entretiens disciplinaires, j'ai commencé ce matin. Donc voilà, c'est à la chaîne. Demain, j'y repars. Après-demain, j'y repars. Et c'est dramatique parce que c'est du jamais vu. 21, parce que là j'en ai 14, mais avant les 14, il y en a eu que j'ai accompagné dans les semaines qui étaient précédentes. Et j'ai jamais vu ça. Je veux dire, c'est pas possible. Je me dis, c'est incroyable d'agir comme ça. C'est vraiment, elle est sans pitié. C'est, et les mettre en difficulté comme ça, et ben moi je me battrais jusqu'au bout avec elles. Et puis franchement, elles sont courageuses parce qu'elles tiennent le coup. Et moi encore plus, c'est vraiment des vrais professionnels de la santé, parce que malgré tout, elles s'occupent des résidents, elles font leur toilette et tout ça, parce qu'elles savent quelque part, on a quand même des personnes qui ont besoin de nous, parce que c'est par leur manque d'autonomie, mais elles continuent à travailler. Mais franchement, chapeau. Franchement, pour moi, c'est des lanceuses d'alerte. Oui. On dit aussi lanceurs parce qu'il y a des messieurs, il y en a peu qui sont avec nous. Mais franchement, elles sont les lanceuses d'alerte. Et j'espère que ce combat qu'elles mènent, eh ben, ça va permettre d'ouvrir la brèche dans tous les EHPAD et que on puisse, voilà, regagner, voilà, des moyens financiers à la hauteur des besoins, autant pour les personnels et autant pour les résidents et les familles.
On est bien d'accord, depuis le 1er octobre, il y a une grève pour demander le départ de la directrice.
Ah oui.
C'est tout le monde est d'accord là-dessus.
Ah ben écoutez, oui. C'est le problème, c'est qu'il y a une fracture totale, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir. C'est trop violent ce qu'ils subissent, les agents. Donc comment reconstruire ça? C'est pas possible. C'est le départ, il n'y a pas de négociation. Effectivement, l'agence régionale de santé
envisage
nous a envoyé un mail d'envisage de faire une médiation, mais la médiation, vous savez très bien qu'on fait une médiation sur pour reconstruire, mais on peut pas reconstruire ce qui a été déconstruit parce que c'est pas possible. Une médiation, là, elle a été trop loin et il y aura jamais, c'est une fracture et c'est une fracture qui se réparera jamais. Donc le mieux, c'est qu'elle s'en aille. Qu'on lui demande d'aller dans un autre établissement ou je sais pas moi, mais qu'elle nous laisse voilà,
aller dans un autre établissement, c'est pas gentil pour ceux qui vont la recevoir.
Bon, non, après elle va peut-être changer, j'en sais rien, elle va peut-être se remettre en question, elle va peut-être modifier sa méthode de management, vous savez, voilà, donc peut-être, après c'est vrai, je sais pas, mais en tout cas le personnel, à la majorité me l'ont confirmé aujourd'hui, hein, parce que je veux pas être meneuse, comme elle le dit si bien, de cet état qui se passe dans son EHPAD, c'est que j'ai bien demandé au personnel, à la majorité du personnel, qu'est-ce qu'on fait. Ils m'ont dit non, on continue, on demande son départ. Ça durera ce que ça durera, mais on continuera jusqu'au bout.
Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment une situation aussi hallucinante peut avoir lieu dans un établissement public. Cette directrice, elle avait une réputation, donc sa réputation devait la précéder peut-être.
Ben non, parce que j'ai une jeune directrice qui vient de débuter sa carrière, mais commence bien. Donc, elle n'avait pas, je pensais pas, c'est peut-être sa formation de directeur qui l'amène à avoir cette posture où il y a vraiment un problème.
Et l'ARS voit les gens démissionner et ne réagissent pas.
Ben je comprends pas.
Il y a eu un dysfonctionnement majeur,
bah, complètement, oui, 20 démissions, 21 entretiens disciplinaires, un mal-être qui s'exprime de ce personnel, des soutiens quand même des familles, des soutiens des résidents, des soutiens de la population, et que l'ARS ne réagit pas, moi je suis quand même assez étonnée, je me pose la question, qui c'est cette directrice?
Elle doit avoir des appuis, c'est pas possible.
Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Je l'ai pas dit, mais vous l'avez dit.
Voilà. Ah ben moi je le dis, j'ai l'habitude de mettre les pieds dans le plat, donc elle doit avoir des appuis parce que c'est pas possible.
On est d'accord.
Avec un tel dégât humain, l'agence régionale de santé, qui est responsable de ce qui se passe dans les EHPAD publics et privés, je suis désolée, aurait dû réagir dès qu'il y a eu des alertes. Les salariés ont dû demander à la hiérarchie ne serait-ce que les médecins, tout le monde, toutes les catégories ont démissionné. Ça aurait dû alerter l'ARS.
Ben oui, malheureusement, ben voilà, vous voyez que la souffrance des personnels que subissent au quotidien, ben regardez justement cette fermeture, voilà, cet abandon des personnels qu'il y a dans l'EHPAD de la Chenée, ben se poursuit sur beaucoup d'EHPAD et malheureusement, c'est pour ça que je suis bien contente que ce personnel puisse résister, parce que quand on dit résistance, et ben oui, les filles, résistance, et on va continuer et je vous lâcherai pas. Et ça, c'est vraiment un point important qui va permettre peut-être d'ouvrir la brèche et de voir en réalité ce qui se passe sur notre terrain.
Alors, quelque part, je me dis que si l'ARS n'a pas réagi, c'est parce que c'est institutionnel et que de toute façon, à partir du moment où un directeur fait ce qu'il veut dans un EHPAD, c'est parce que quelque part, c'est le système capitaliste qui permet, quand on a les clés d'un commandement, on fait du personnel ce qu'on veut.
Tout à fait, bah c'est ça. Oui, on fait ce qu'on veut, donc on doit soit, si on baisse la tête, bon bah on est un peu corvéable à tout, donc on accepte tout. Et soit on lève un petit peu la tête pour dire non, on n'accepte pas ce que vous nous imposez. Par contre, là, on le paye. Donc, c'est la porte de sortie. Donc, c'est ce qui se passe au quotidien pour le personnel. Et oui, c'est ça. C'est ça la réalité. C'est soit ils subissent, ils acceptent, on leur dit rien.
mais s'il lève un petit peu la tête pour dire ce que ça va pas, et surtout quand ça s'agit d'une prise en charge des résidents, dire que voilà, nous, voilà, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à soigner, on vous ne donnez pas les moyens. Dès qu'il y a une manifestation d'un personnel soignant qui pas revendique, qui exprime cette problématique, et ben là, ça y est, il est mis au placard. Il faut rien dire, subir.
Le 92 est un département très riche.
Complètement.
Grâce à la Défense, qui récolte un quart du PIB de la France. La ville de Suresnes est une ville riche. Donc, a priori, la Chenée devrait être dotée de moyens considérables pour s'occuper des résidents. Quand on a lu l'information, on s'est dit, c'est pas croyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est un dysfonctionnement majeur.
Oui, c'est un dysfonctionnement majeur, effectivement. C'est le 92, bien sûr, qui est réputé très très riche. D'ailleurs, c'est l'un des départements le plus riche de France. Hein. Ça,
voilà.
C'est clair. C'est que c'est là où il y a plus d'établissements...
En déficit.
C'est pas en déficit. Déjà, le nombre d'établissements est énorme. Il y en a 120 EHPAD dans le 92, ce qui est énorme. Et en plus, la majorité, effectivement, sont en situation déficitaire. Donc, oui.
Le département ne donne pas assez déjà pour.
Alors oui, c'est ça.
C'est un des départements les plus pingres.
D'accord. Parce que le problème, c'est que les financements, ils sont octroyés. Déjà sur le côté volet soins sont octroyés par la sécurité sociale. Hein. Vous avez bien vu qu'a été contesté d'ailleurs le PLFSS 2025. Donc il y a une dotation qui est donnée à l'ARS. Il fait une répartition, mais c'est insuffisant. Je veux dire, c'est de l'argent qui est insuffisant par rapport à l'enjeu du besoin dans la question déjà de la santé de ces personnes âgées et puis aussi des salaires des professionnels. Le département aussi, oui, effectivement, ne donne pas assez de moyens. Effectivement, il y a la dotation forfait dépendance qui est octroyée par le conseil départemental qui est insuffisante. Et par contre, moi, ce qui me dérange un peu, c'est le tarif d'hébergement qui est quand même assez important parce que c'est quand même 44% du financement. Et ben voilà, ils sont dans situation déficitaire et ça c'est problématique et ça pose question de qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent déjà qui est déjà octroyé, comment c'est réparti, hein, d'accord, et c'est pas au petit personnel qu'on va enrichir leur salaire. Hein. Donc, ça, c'est une question
de gestion.
De gestion qui est quand même à réfléchir et à savoir comment c'est réparti. Quoi.
Bon, donc cette directrice, c'est...
C'est l'enfer.
D'accord, voilà. Donc un seul mot, c'est... Un seul mot, la...
Alors, voilà, moi je vais envoyer un message à mes collègues de l'EFA de la Chenée que je soutiens. Maureen, démission, Maureen, démission, Maureen, démission, Maureen. Et j'en dirai pas assez, oui, Maureen, démission. Nous, on demande vraiment votre démission pour que vous puissiez laisser à ce personnel travailler et revivre ce qu'ils ont vécu il y a quelques années avec leur directeur, Monsieur Jean, que je cite parce que... Voilà, c'était un bon directeur qui savait mener un management et qui permettait un peu de faire souffler à ses personnels sur la difficulté, leurs conditions de travail, qui permettait un peu de donner du souffle pour ses personnels et pour nos résidents.
Bon, alors, donc, on va continuer à suivre ce qui se passe à la Chenée. Malika, vous revenez quand vous voulez.
Merci.
Pour nous donner des nouvelles. Mais par contre, il y a d'autres mobilisations.
Oui, justement. Déjà, je tiens quand même à vous remercier, hein, Radio Libertaire, hein, si je me trompe pas, c'est bien ça, de pouvoir me laisser m'exprimer et de porter la voix des personnels des EHPAD, parce que cette situation, elle est tellement dramatique. Et vraiment, je suis vraiment très émue que je puisse partager le témoignage de ce qui se passe pour nos résidents et aussi pour nos personnels. personnel dans les EHPAD. Je vous remercie infiniment. Et je voudrais aussi donner un petit clin d'œil parce qu'il y a aussi le secteur hospitalier. Je parle de l'hôpital Beaujon où actuellement ils sont en grève depuis le 13 octobre. Hein. Franchement, j'ai tout mon soutien pour ce personnel hospitalier qui soigne aussi les usagers, les patients. Et vraiment un grand courage et j'espère qu'ils vont gagner sur leurs revendications et que vraiment toutes les luttes hein, aussi dans les EHPAD, dans les milieux hospitaliers, hein, tout ce combat, j'espère qu'un jour ça va ouvrir la brèche et que ce gouvernement va répondre à cet enjeu. Voilà ce que veut dire aujourd'hui l'enjeu humain.
Merci Malika. Alors, on va remercier celui sans qui il n'y aurait pas d'émission, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, merci.
Merci Jean-Michel.
Qui, sur son temps de travail, nous réserve toujours un temps pour faire les émissions. On le remercie infiniment. On vous dit de faire attention à vous. Si vous avez les moyens d'aider les résidents de combattre le gouvernement sur la question du grand âge, n'hésitez pas. Il y a une cagnotte pour l'EHPAD de la Chênaie pour soutenir les salariés. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la CGT. Toutes les informations sont en ligne. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calissi, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes de toute les Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le chiffre de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin, je t'ai blousé chez mon voisin. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage.
L'orchestre a entamé la danse, dans le vacarme et dans les cris, les hommes conquérants s'avancent à la moderne loterie. Le lot est là, qui les regarde, qui jauge suppute et acquiesce, la salle de bal, une salle de garde, un air de twist, un coup de grosse caisse. Couples illusoires, couples de frotterie, couples de débois et de sauterie. Un jeune puceau là d'être sage susurre les pires niaiseries. Laissez-moi donc deviner votre âge. Vous c'est Loulou, moi c'est Riri. On est donc bien fait pour s'entendre et agiter nos deux ennuis. Il sent son pantalon se tendre, elle se serre plus fort contre lui. Couples illusoires, couple de frotterie,
couple de débois et de touches pipi. Celui-ci pourrait être son fils à cette madame putiphar qui triche de tous ses artifices, qui cache ses cernes sous ses phares. Goulue vorace, elle fait la belle pour le sucre ou pour le fouet que son mari bien trop fidèle n'a jamais voulu lui donner. Couples illusoires, couple de frotteries, couple de débois et de brocanterie. Celui-là pourrait être son père à cette Manon de bas prix. Elle ne se met pas en colère, non, elle fait ses comptes et elle sourit. En oubliant que pour une corvette, un chèque en blanc, un coup de whisky, un vieillard, pas même poète, elle a vendu son pissenlit. Couples illusoires, couple de frotteries, couple de débois et d'épiceries. L'orchestre a terminé la danse dans le vacarme et dans les cris. Les couples titubants s'avancent à la niche au harakiri. Et moi je suis là qui les regarde dans les fanfares de la nuit. La salle du monde, une salle de garde, la terre est ronde comme l'ennui. Et sur le trottoir de mes flâneries, je pisse à la gloire de ma veuverie.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits. Tous les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul à faire ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne serai jamais seul avec ma solitude.
Un jour, un pauvre trimardeux, qu'allait le ventre vide, qu'allait le ventre creux, entraînant son bâton de roue. Un jour, un pauvre trimardeux s'en vint à passer par chez nous, à la balancer le pied de biche de monsieur le maire à son château, et fit demande aux gens du riche d'un bout de pain et d'un gobelet d'eau. Mais les domestiques qui se moquent des ventres en peine des gens en loque, lui dirent va-t'en chercher ailleurs, ici on ne donne qu'aux électeurs, ici on ne donne qu'aux électeurs. Alla cogner au presbytère dans l'espoir que l'on y donnerait quelques sous dessus le tronc de la misère, quelques sous dessus le tronc de la misère. Mais le curé qui était encore guilleret confessait une pécheresse qu'avait moins de péché que de joliesse, et le pauvre peineux hubiot gémir, personne s'amena pour l'y ouvrir. Alors s'assit en compte une borne, tout en regardant les petits moignons picoter sur la grande route morne, dans le crottin tout fraîchier des chevaux. Quand qu'une servante qui menait à paître le bio troupait de vaches à son maître, passa tout près d'où qu'était le gars, et lui causa tout bas, tout bas, et lui causa tout bas, tout bas. Dans les foins, oh les foins qui grisent, elle se laisse faire et le pauvre glouton se mit à boulotter les cerises de sa bouche et de ses deux tétons, lampant comme du vin chaud l'ivresse de ses bécots, de ses caresses. Puis quand t'y fut ben sous ben là, s'endormit entre ses deux bras, s'endormit entre ses deux bras. Un jour, un pauvre trimardeux, qu'allait le ventre vide, qu'allait le ventre creux, entraînant son bâton de roue. Un jour, un pauvre trimardeux s'en vint à passer par chez nous.
Toi, je sais. sais plus très bien où j'habite, mais venez tous, je vous invite. On a squatté un arc-en-ciel, on dort sous un rayon soleil. Ne frappez pas fort, s'il vous plaît, j'ai plus envie de me réveiller. Je veux plus savoir où j'habitais, où j'habitais. T'es venu comme un chat sauvage, sans griffer, t'as tourné ma page. Tu as apprivoisé mes planches, t'as jeté l'encre sur mes feuilles blanches. Je faisais mon dernier tour de piste, tu l'as ressuscité l'artiste. Adieu les adieux, t'es venu, tu ne me quittes plus. Qu'est-ce qui t'a pris de passer par là, de rentrer chez moi? Parle-toi, t'as pourtant rien du Père Noël. Qu'est-ce que t'as fait de ton échelle? Qu'est-ce qui t'a pris de passer par là, de rentrer chez moi? Parle-toi, t'as pourtant rien du Père Noël. Qu'est-ce que t'as fait de ton échelle? Qu'est-ce qui t'a
deux âges, mais plus près de l'un que de l'autre. Le corps entre deux chaises, mal à l'aise mon vôtre. Tu portes le deuil du monde en berne sur la frime, mais t'as la bouille toute ronde, 13 ans, très enfantine. Tu te teins d'idées noires sous tes boucles d'orgueil. Tu te mets du rouge à lèvres et puis le doigt dans l'œil. 13 ans, 13 ans, Lady Di, Lady de 13 ans. On t'arrache un sourire comme on t'arrache une dent entre la trousse d'école et celle à maquillage. 13 ans, 13 ans chantage, tu te vautres en chocolat, mais toujours au régime. Madame au camélia, 13 ans, 13 androgyne. Et puis comme t'as pas de sein, du coup tu manges plus rien. L'éternel féminin, c'est pas fait pour les chiens. Et tu fais plus grand chose à part bien sûr la gueule, ce que vivent les roses. Tu t'en fous, t'es toute seule, en gros pull à la mer et d'un couvent pas souhaité. Les amis de ton père, 13 ans, très enchanté. T'as des tongs en hiver et ça fait chier ta mère. 13 ans, 13 ans colère. Et puis il y a l'amour un peu passionnément entre la cour d'école et puis la cour des grands. 13 ans, 13 ans pressé, t'es tombé sur les genoux du seul qui te plaisait. Bref, celui qui s'en fout, c'est dur d'aimer quelqu'un quand on peut pas le sentir. Connaître trois mots d'amour, personne à qui les dire. Mais quand on aime un mec, et même si c'est un con, on pleure au nom du Saint-Esprit de contradiction. Et tu fumes la télé en regardant la moquette. 13 ans, 13 ans douillette, tu hurles avec les loups, c'est mieux qu'avec les chiens. À présent qu'à 13 ans, tu rêves parti trop loin. 13 ans, 13 angoissé par ton père et ta mort. 13 ans, 13 ans gueulé, c'est l'âge du plus fort. Et tu mords tes blessures, tu cries 13 ans rageuse. Nos futurs, c'est plus sûr. 13 ans, 13 ans merdeuse, les nerfs à fleur de peau. 13 ans.
Oh, braccio sonne così am, o svenita del corpo che canto la flor, flor de l'am, intervinter ni esperan. I la cinvenuce mi, aura grec, aura fransca, e canto con mi, persa ma voce e diranta del cor esperanto.
Esperanto, esperanto.
Estas